Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Eliott Baucher, à la réalisation Anne de Pelchin, à la console Audrey Guélil. Et aujourd'hui, on vous emmène de l'autre côté du poste.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
À quoi sert l'audiovisuel public ? La question ressurgit alors qu'un projet de réforme doit être présenté lundi en Conseil des ministres. 80% des Français jugent que la radio et la télévision publiques sont importantes, voilà une bonne nouvelle, et qu'elles remplissent leur mission d'informer, selon un sondage Opinionway réalisé l'an dernier pour le Sénat. Informer, oui, mais à quel prix ? L'État demande à Radio France et France Télévisions un effort budgétaire de 190 millions d'euros jusqu'en 2022. Effort nécessaire afin d'organiser la riposte face aux géants du streaming américain pour certains, mais qui met en péril l'avenir des médias de service public pour d'autres. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Quelle télé et quelle radio demain face à Netflix ? On en parle avec Olivier Bumsel, Elisabeth Fleury-Hérard et Simone Harari-Beaulieu. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
À 14h50, on retrouvera la chronique de Catherine André, notre partenaire d'Alternatives économiques. Mais d'abord, petit retour dans l'histoire sur fond d'interlude de l'ORTF.
J'ai confié à Marcel Julien une mission de réflexion sur ce que doit être le contenu des cahiers des charges du secteur public. C'est très important, ça va être du domaine du décret. Notre projet, c'est un projet d'ouverture.
Les réformettes, c'est fini pour le service public. Il faut cette fois-ci avoir une grande ambition. Et il faut effectivement permettre à deux chaînes qui ont un même président de pouvoir tirer dans la même direction, de ne plus se concurrencer, d'opérer des synergies, et de permettre que, au niveau de l'harmonisation des programmes, les téléspectateurs puissent avoir à 20h30 le soir un programme sur Antenne 2 et un programme différent sur FR3.
Renouveau du service public, développement et régulation de l'ensemble du secteur, telles sont les idées forces de cette réforme qui conduira à une profonde modernisation du paysage audiovisuel.
Mais la politique de civilisation va s'exprimer dans une rénovation sans précédent de l'audiovisuel public. Sans précédent.
Sans précédent, on entendait dans l'ordre l'ancien ministre de la Culture, François Léotard, Hervé Bourges, patron d'Antenne 2 et de France 3 à l'époque, Catherine Trottmann, ancienne ministre de la Culture, et enfin Nicolas Sarkozy. Alors on va commencer avec vous, Olivier Bumsel, vous qui êtes économiste, professeur à Mines Paris Tech. Quel est votre regard sur ce défilé de réformes de l'audiovisuel public depuis l'éclatement de l'ORTF en 1974 ?
Ouais.
On n'a pas cessé d'essayer de réformer cet audiovisuel public.
Oui, comme disait M. Perrichon dans la pièce de La Biche, l'homme se sent petit devant la mer de glace. Il y a une histoire liée d'une part à la création du ministère de l'Information, puis de la télévision par différence d'avec la presse sous contrôle du pouvoir politique, et puis à partir de la présidence Mitterrand, de l'organisation d'un système plus ouvert au marché avec des concessions données à des amis politiques au fur et à mesure et des règles associées aux concessions de télévision qui ont toujours été données, jamais mises aux enchères, comme ça s'est fait pour les licences de téléphonie, par exemple.
Mais à chaque fois, c'est présenté comme la grande réforme qui va tout changer.
À chaque fois, mais ça, c'est le métier de chaque politique, c'est de montrer à quel point il est nouveau.
Elisabeth Fleury-Hérard, vous êtes ancienne vice-présidente de l'autorité de la concurrence et ancienne membre du CSA. Selon vous, qu'est-ce que traduit cette volonté de chaque nouveau président de réformer l'audiovisuel public ?
Je crois que ça traduit surtout le fait qu'on vit dans un système extrêmement régulé, probablement sensiblement plus régulé que la plupart des pays. Et donc à partir du moment où c'est très régulé et qu'il y a quand même des évolutions technologiques importantes et nombreuses dans un sujet pareil, et ben effectivement, il faut faire des réformes. Alors est-ce qu'elles sont toujours aussi révolutionnaires qu'annoncées ? C'est le sujet.
Votre point de vue, Simone Harari, à Beaulieu, je précise que vous êtes productrice de télévision, fondatrice de la société de production Effervescence.
Alors en effet, comme l'évoquait M. Bumsel, on est passé du monopole, donc il n'y avait que le service public, à une ouverture à des exploitations de chaînes commerciales, données pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais en tout cas qui ont totalement diversifié le paysage. Et comme le soulignait Elisabeth Fleuriera, il y a eu aussi des évolutions technologiques qui font que il a bien fallu s'adapter chaque fois à un paysage très différent. Mais moi, ce qui me frappe dans les exemples que vous citez, alors ça tient peut-être à vos choix, mais je crois que vos choix sont honnêtes et que ça tient plutôt au discours qui a toujours été dans le comment, comment on organise, et jamais dans le pourquoi faire. Et ce pourquoi a-t-on besoin d'un service public n'est évidemment pas, la réponse ne peut pas être la même quand le service public est seul, un monopole, quand le service public est un parmi plusieurs, commerciaux, pas commerciaux, et quand le service public est un parmi une infinité.
Et c'est encore le cas aujourd'hui de cette nouvelle réforme, on est dans le comment et pas dans le pourquoi, Simone Harary-Beaulieu.
Pour moi, en effet, la question du pourquoi mérite d'être posée et n'est pas tranchée. Alors, il y a des bribes ici et là, le ministre emploie une jolie expression, je trouve, qui est celle de souveraineté culturelle. Donc là, il y a souveraineté, il y a culturel qui donne déjà deux pôles, mais après tout, TF1 et M6 peuvent être, en tout cas, considérés comme faisant partie aussi du paysage français. Et je trouve que la réflexion de pourquoi dans un univers large, et après tout, il n'y a pas de presse publique, il n'y a pas d'édition publique, pourquoi faut-il, j'espère que votre émission va beaucoup porter là-dessus, est-il parfaitement, et selon moi, plus justifié que jamais qu'existe une radio publique et une télévision publique dans une offre qui n'a jamais été aussi infinie et nombreuse que ce qu'elle est aujourd'hui.
Alors il y a la question du clivage entre public et privé, mais on a l'impression que c'est un clivage qui évolue, Olivier Bomsel, entre un nouveau clivage qui serait l'audiovisuel français face à des géants du numérique américains.
L'audiovisuel français a toujours été face aux géants des médias américains. Les studios d'Hollywood ont toujours contribué à développer le secteur audiovisuel en France. Ils ont permis, grâce à leurs films, de renouveler complètement le parc des salles de cinéma dans les années 90. Mais la France a toujours souhaité marquer son exception, avec un handicap économique lié à la taille du bassin linguistique qui fait que les économies d'échelle associées aux productions audiovisuelles sont beaucoup plus fortes sur le continent américain que sur le continent européen, où il y a 27 pays et 22 langues différentes, je crois.
Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de géant du numérique européen et encore moins français, Olivier Bomsel.
Non, parce que le cadre de protection de l'industrie nationale qui a été mis en place du temps du système technique de la télévision, qui est aujourd'hui défié par de nouveaux moyens d'accession aux images convoyées par Internet. Le système qui a été mis en place n'a pas permis l'internationalisation du système français, voire la constitution d'une industrie européenne capable de rivaliser avec les industries des grands territoires monolinguistiques comme les États-Unis ou la Chine.
Simone Harary-Beaulieu posait la question du pourquoi qui devrait primer sur celle du comment, mais on peut tout de même se demander, Elisabeth Fleury-Hérard, si aujourd'hui une réforme n'est pas nécessaire et si le cadre législatif et réglementaire qui existe jusque-là autour de la télévision et de la radio publique n'est pas devenu obsolète. Je rappelle qu'on s'appuie encore sur une loi de 1986.
Effectivement, et pour reprendre la remarque de Simone Harary, oui, la question du pourquoi est importante. Moi, je dirais, au fond, ce qui serait intéressant, c'est de poser les bonnes questions avant de proposer des réponses, ce qui revient au même.
Ce qui veut dire définir une vision ?
Ce qui commence par définir un diagnostic. Moi, ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est que on est face à une triple révolution, qui est une révolution technique, hein, puisque effectivement, l'OTT, over the top, ça veut dire une transmission par Internet qui n'a plus besoin des fréquences hertziennes. Les fréquences hertziennes, c'était la propriété de l'État qui imposait une certaine régulation. Qui peut empêcher quelqu'un de transmettre par OTT ? Personne. Donc on échappe à une régulation. La deuxième révolution, c'est que l'Internet permet la délinéarisation, permet le fait qu'à tout moment, n'importe où, vous pouvez voir votre programme préféré à l'intérieur d'un stock en échappant au temps linéaire. Et il y a une troisième révolution qui est effectivement importante, c'est que l'OTT, comme c'est l'Internet mondial, ça définit un marché mondial. Or, encore une fois, tant que c'était des fréquences hertziennes, c'était une régulation nationale, parce que les fréquences hertziennes, elles sont nationales. Donc
aujourd'hui, on a une télévision et une radio publique comme privée qui sont très régulées, alors que l'offre internationale, les plateformes comme Netflix, le sont nettement moins.
Alors qu'elles sont plongées dans un grand bain mondial. Et en plus, un grand bain mondial qui va travailler sur un système délinéarisé qui est très contraire à leur culture, très différent de leur culture.
Et alors cette question quel service public, Simone Harari, vous voulez réagir? Alors,
je voudrais réagir à ce que vient de dire Elisabeth, que je trouve très, très juste, bien sûr. Il y a une révolution technique qui permet l'OTT et une révolution technique qui permet que tout soit accessible partout où je veux, comme je veux, bien sûr. Et ceci fait que on ne doit plus être sur la défensive. Donc, raison de plus pour bien réfléchir à la vocation du service public et à une attitude culture-communication qui soit soi-même et pas simplement de mettre des barrières, bien sûr. En même temps, on a quand même une spécificité en France qui est une langue qui, même si elle n'a pas un arrière-pays, si j'ose dire, aussi important que l'espagnol, qui a bien sûr tout le continent sud-américain, dépasse quand même l'Hexagone, puisqu'il y a quand même l'Afrique, pour une partie en tout cas, un petit peu de Canada, et les pays limitrophes, comme la Belgique et la Suisse. Donc, on n'est quand même pas acculé, et on a la possibilité pour des gens, et je rappelle que la première vocation de la loi qui va être présente au Conseil des ministres avant la fin de l'année, c'est d'abord d'adapter la directive européenne sur les services, la loi SMAD, et de ce point de vue, l'Europe a toujours dit que c'est la réglementation du pays destinataire, pas celle du pays émetteur, qui doit s'appliquer.
Qu'est-ce que donc, ça veut dire?
Ça veut dire que des sociétés qui se mettaient au Luxembourg pour arroser la France, et en disant, moi, les jours interdits, je ne veux pas savoir, par exemple, pour les films, en comparaison avec les règles qui pèsent sur Canal+, moi, la publicité interdite au commerce de grande surface, je ne veux pas savoir, moi, je suis au Luxembourg. Alors, c'est un peu faire semblant, parce que vous soyez à Luxembourg ou à Londres, comme par hasard, vous émettez en français, et principalement à destination du public français, donc vous êtes gentil, mais on va quand même...
Donc cette loi permet d'abord de mettre au même niveau en termes de réglementation, voilà, la
en
télévision.
En tout cas, on n'est pas totalement démuni. Après avoir dit, on n'est pas d'abord là pour se défendre, on est d'abord là pour exister. Mais malgré tout, on n'est pas complètement démuni pour des gens, des plateformes notamment, ou des services qui, en français, draguent le public français. Mais il y a une troisième révolution que Elisabeth n'a pas cité et qui, moi, me paraît également importante dans le contexte de la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est pourquoi un service public, c'est l'évolution de la publicité qui change le modèle économique parce que la publicité se déplace vers l'Internet, nos téléphones et nos téléphones portables et les publicités adressées à chaque personne. Mmh. Et le concept même de mass-média, qui était le modèle économique des chaînes privées, existe encore, bien sûr, mais il est facile de voir que ce n'est pas un modèle porteur pour l'avenir.
Mais alors justement, c'est ce qui est prévu par la loi, c'est d'ouvrir la télévision à la publicité ciblée qui serait accaparée par les GAFA. Et ça, ça devrait entraîner une forte hausse des recettes pour la télévision publique et privée.
Alors c'est une ouverture qui est pour la télévision essentiellement privée. D'après ce que j'ai vu comme hypothèse, on parle de quelques 50 puis 100 puis 200 millions. Donc on est quand même à en gros 5% à court terme.
C'est jugé insuffisant par la télévision
privée.
Non,
c'est pas une question seulement suffisant, c'est que le marché grandit, mais le marché n'est pas encore là. Mais ce que je veux dire, et pour reboucler sur la question que vous me posez, c'est que les chaînes généralistes financées par la pub type TF1 M6, qui ont merveilleusement réussi et qui ont encore un compte d'exploitation extrêmement profitable, ne sont pas pour l'avenir sur le secteur le plus profitable du marché, puisqu'il n'y a pas de croissance attendue de la publicité mass-média. Donc, on a absolument besoin, si on a besoin de télévision généraliste qui s'adresse à tous, plus que jamais d'un service public au seul nom du modèle de la révolution, du modèle économique de la pub.
Alors si on a besoin d'un service public, la grande question qui se pose, c'est évidemment celle de son financement. Et en l'occurrence, la redevance finançant l'audiovisuel public va baisser de 1 euro en 2020 et passer à 138 euros. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, Olivier Bomsel, avant de venir plus largement à la baisse des dotations du service public, à la fois télé et radio ?
Rien. J'en pense rien. Une baisse de 1 euro sur 138 euros,
ça pose quand même des questions, notamment parce que la taxe d'habitation qui va être supprimée pour tous les Français en 2023 et qui est cette taxe sur laquelle est adossée, cette redevance va disparaître.
La redevance télévisuelle est maintenue, donc...
Alors, elle est maintenue pour le moment, mais en l'occurrence, Franck Riester, le ministre de la Culture, a annoncé ce matin que la redevance serait maintenue. Mais, par contre, la question de la collecte de cette redevance se pose. Et pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les moyens de la collecter.
Je suis pas au gouvernement, je ne suis pas au ministère des Finances, je ne suis pas en charge de collecter les taxes. Ce que signifie le fait que la redevance soit maintenue, baissée de 1 euro sur 138, c'est qu'elle est maintenue. Après, il y aura toujours des perceptions pour la collecter. On vous enverra un email et sur finance.gouv, vous trouverez à payer votre facture.
Enfin, ce qui peut être très coûteux.
Alors,
Elisabeth Fleurière.
Je rejoins un petit peu le sentiment d'incompétence d'Olivier Bomsel, je dois dire. Et à vrai dire, au-delà, je pense que la question qui se pose, c'est une question qui touche aussi bien le service public que les télévisions privées. Parce que cette révolution du modèle économique de la télévision, qui touche le modèle économique de la télévision linéaire, effectivement, c'est un vrai problème où service public et télévision privée se retrouvent à égalité.
Il y a quand même plusieurs questions qui se posent, qui est à la fois le mode de calcul, le moyen de collecter cette redevance et le fait qu'elle diminue, Simone Harary-Beaulieu.
Alors moi, j'avoue n'avoir pas à déclarer l'incompétence puisque je me suis fendue d'une tribune qui est parue une quinzaine de jours dans les Échos pour dire que je trouvais cette baisse de 1 euro ridicule. Alors j'écris ridicule pour être poli, à l'oral je dirais volontiers stupide, parce que économiquement elle est en effet pas très significative, on parle d'une dizaine de millions, une vingtaine de millions d'euros, si on considère qu'il y a à peu près 20 millions de foyers qui payent la redevance, donc ça fait pour les chaînes en question, 20 millions d'euros, ben on peut considérer que ça fait 4 séries françaises de moins. Bon, vraiment, c'est sûrement mieux pour le pays. Évidemment, je suis ironique en disant ça. Pour les particuliers, 1 euro, il n'y a même pas de quoi s'acheter un café dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, même dans un distributeur automatique sur une autoroute. Et comme message, ça veut dire, en tout cas, franchement, ces gens-là exagèrent, on va leur renier les trucs. Au lieu de... Moi, l'État qui n'aime pas ses services publics, je trouve ça absolument épouvantable. Alors, dire qu'elle est maintenue veut simplement dire que la dotation donnée aux services publics n'est pas budgétisée, n'est pas confondue dans le budget général de l'État, qu'elle reste individualisée. Ça, c'est évidemment une bonne décision. Sur le niveau, encore une fois, pourquoi faire ? Pourquoi y a-t-il un service public ? J'espère qu'on y viendra dans le cours de votre émission. Et sur quoi l'apercevoir ? Alors, en effet, comme ça a été dit, il suffit de recevoir un email. Moi, je suis personnellement pas du tout favorable à ce que ce soit sur l'impôt sur le revenu, parce qu'on sait que la moitié des Français seulement paye l'impôt sur le revenu. Il y a des pays dans lesquels, je crois que c'est le cas de l'Italie, où il y avait particulièrement beaucoup de fraudes, où c'est maintenant encaissé avec la facture d'électricité. On dit après tout le monde est abonné à l'électricité. Eh bien, les gens abonnés à l'électricité, à eux de prouver qu'ils n'ont aucun écran, ni tablette, ni quoi que ce soit. Évidemment, il faut déconnecter la redevance du poste, de télé, parce que c'est grotesque et ça rend le tout obsolète. Mais vraiment, encore une fois, très bien, vive la facture d'électricité.
Mais c'est une baisse d'un euro qui certes peut sembler symbolique, mais qui intervient dans un contexte général de baisse de dotation de l'audiovisuel public, en l'occurrence 190 millions d'économies prévues entre 2018 et 2022.
On n'est pas une syndicale de l'audiovisuel public.
Ah, pas du tout, mais ça pose des questions sur comment on finance son service public. Cette question, elle est quand même importante, Olivier Bomsel.
À condition de considérer que le service public est quelque chose d'important.
Mais je pense que le problème de fond, c'est quand même de se demander à quoi servent les médias publics dans le domaine audiovisuel.
Alors, selon vous,
vous l'avez posé au départ, on ne va pas passer toute l'émission à discuter de la collecte des 137 euros restants.
Dites-nous pour vous, quelle est la mission du service public, Olivier Bomsel?
Je n'en ai aucune idée. Je voudrais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé cette semaine et éventuellement son interprétation. Netflix a programmé depuis une quinzaine de jours une série de 5 épisodes sur l'affaire Grégory, qui est une grande saga de l'histoire judiciaire et médiatique de la France des 30 dernières années, qui est une série qui a vocation à être distribuée dans le monde entier, qui n'avait jamais été fait sous cette forme en France précédemment, alors qu'il s'agit d'un sujet véritablement ultra connu et rebattu en France, et qui met en évidence dans le traitement que les producteurs en ont et les concepteurs du documentaire en ont donné, toutes les failles institutionnelles ayant affecté la conduite de l'enquête depuis la police, la justice, les journalistes, les médias, les politiques.
Et vous voulez dire que ça donne de la visibilité
C'est typiquement un produit qui aurait dû apparaître sur des antennes de services publics en France.
Je vais vous répondre que l'affaire Grégory, en l'occurrence, a été traitée par documentaire sur France Culture et en plusieurs épisodes en longueur.
Et en fiction sur France 3.
C'est possible, mais je peux vous assurer que, à ma connaissance, il n'y a aucun documentaire qui mette en évidence les connivences ayant existé entre les avocats de certains témoins engagés ou inculpés engagés dans l'affaire, la police, la gendarmerie, les médias et la concurrence entre la presse régionale et la presse magazine nationale dans le dossier. Et à quel point tout ceci a contribué à l'imbroglio judiciaire et au fiasco.
Netflix fait beaucoup mieux,
qui met en scène une crise du fonctionnement institutionnel du pays dans une circonstance particulière.
Et alors la question, c'est est-ce que Netflix fait mieux parce qu'il a plus de moyens? Et ça pose aussi les questions des moyens.
Laissez-moi terminer, merci. Qui fait réfléchir le spectateur en France pour ceux qu'ils verront sur Netflix et qui permet surtout une intelligibilité, une lisibilité de cette affaire dans le monde entier où Netflix va l'exporter. La question que vous posez, c'est pourquoi est-ce que c'est Netflix qui fait ce produit mondial avec cette acuité d'analyse qui, à ma connaissance, n'a jamais existé, y compris dans les livres qui ont été tirés de l'affaire. Je pense au livre de Denis Robert, par exemple, qui est assez bien fait. Et pas le service public. Et de mon point de vue, c'est entièrement lié au modèle de fonctionnement de Netflix, aux incitations économiques qu'il y a derrière et à l'incapacité du système éditorial français, qu'il soit public ou privé, de traiter à fond ce type de questions.
Alors la question, c'est est-ce que la réforme qui est prévue par le gouvernement est susceptible de répondre aux critiques que vous soulevez? Alors, notamment parmi les mesures annoncées, la création d'une holding France Média qui rassemblerait France Télévisions, Radio France, Lina et France Média Monde.
Non.
Eh bien, on va en discuter, si vous le permettez, Olivier Bomsel. Est-ce que l'objectif, c'est de créer une forme de BBC à la française? Et quels sont les bénéfices qu'on peut attendre de cette superstructure, Elisabeth Fleury-Hérard?
Non, là vraiment...
L'objectif, c'est de concurrencer des géants comme Netflix, justement.
Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Où sont les bonnes questions? Puisque ça, c'est une réponse. Où sont les bonnes questions? La bonne question, c'est de voir que on est, que ce soit la télévision publique ou que ce soit la télévision privée, ça dépasse quand même pas mal le sujet de la redevance, on est dans un système où on voit bien et qu'il y a une attrition progressive, programmée des ressources de la télévision. La télévision, en termes de droit de la concurrence, enfin, en termes d'économistes, on dit que c'est une spirale positive. Hein, en gros, c'est le fait que vous faites des bonnes émissions, vous avez plus d'audience. Si vous êtes privé, vous avez plus de ressources grâce à la publicité qui vont vous permettre de faire des émissions de plus en plus coûteuses, de plus en plus intéressantes, qui vont elles-mêmes ramener plus de publicité, etc. etc. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On est en fait dans quelque chose qui se rapproche plutôt d'une spirale négative.
Mais justement, la question, elle est légitime. Comment on concurrence Netflix si on baisse les dotations de la télévision publique ?
Mais c'est pas seulement...
Ce ne sont pas les dotations qui vont permettre de concurrencer Netflix. Ce n'est pas subventionner la sidérurgie qui l'a fait vivre.
Et puis, je rappelle quand même quelques chiffres. Netflix, en 2018-2019, c'est des investissements mondiaux en production de l'ordre de 12-15 milliards, voire davantage, parce qu'il y a une certaine opacité qui règne là-dessus. C'est vrai que le 1 euro de la redevance n'est pas complètement...
Donc commençons... intervient dans une baisse de dotation de 190 millions, d'accord, quand même rappeler, sur 4 ans.
En admettant qu'effectivement cette baisse de 190 millions soit annulée. Hein. Le sujet, c'est comment, face à une offre de Netflix ou des autres plateformes qui offrent des usages entièrement différents, et ça c'est quand même essentiel, qui offrent l'accès à des contenus mondiaux d'extraordinaire qualité, quand vous avez des Irishman,
Vous parlez de la dernière production de Netflix.
Je parle de la dernière production de Netflix qui est... Cinéma, sans parler effectivement des très grandes séries, etc. Face à ça, face au fait que c'est une diffusion mondiale, face au fait que ça coûte très peu cher, Netflix, c'est très peu cher. On parle de Disney Plus bientôt au printemps ici, 6 ou 7 euros. 6 ou 7 euros, c'est le prix qui va être celui de Salto. Mmh. Pour 6 ou 7 euros, vous avez tout
Disney,
vous avez tout Fox.
Alors, expliquez ce que c'est cette plateforme. Expliquez-nous cela, Elisabeth Plurier, une plateforme qui rassemble M6, TF1 et France 2 pour créer justement
Des une offre délinéarisée, mutualisée.
Qui se veut concurrencer, là encore, Netflix.
Veut concurrencer Netflix. Et effectivement, c'est un chemin un peu qui s'impose parce que l'énormité de l'offre de Netflix, l'énormité des moyens que ça exige... c'est pas à la portée du service public, c'est pas à la portée de TF1, c'est pas à la portée de M6.
Simone Arimolio.
Je voudrais revenir d'abord répondre. Je n'ai pas vu la série sur l'affaire Grégory, je ne sais même pas si c'est un doc ou une fiction, mais on ne peut pas dire que la télévision française et la radio publique n'est pas traitée ou trop Bruyère en Artois ou l'affaire Grégory, pour parler de trois affaires qui n'honorent pas spécialement notre système judiciaire. Mais l'avantage de ce qu'évoque M. Bomsel, c'est la concurrence. Très bien, on ne pourra donc plus mettre l'étouffoir ou l'éteignoir sous réserve qu'on l'ait déjà mis. Et je crois que c'était tellement pas le cas qu'il y a eu des référés pour empêcher la fiction de Peck sur France 3 consacrée à l'affaire Grégory qui était en 6 épisodes le samedi soir à 20h30. Donc plutôt quelque chose d'extrêmement visible et qui n'était pas à l'avantage évidemment des pouvoirs publics susnommés. J'adorerais qu'il n'y ait pas que les Américains pour expliquer que le système policier ou judiciaire français est éventuellement avec des connivences et des petits arrangements entre amis. Donc, pour moi, c'est la preuve qu'un service public fort capable de s'intéresser ou de faire la contre-enquête est importante. Mais je ne suis bien sûr pas contre. On ne peut pas d'autre part comparer avec la sidérurgie et son maintien, puisque là, par définition, on est sur un marché porteur, celui des images. Alors, est-ce qu'on s'organise de façon mal foutue en France et qu'il faut réformer, re-réformer et réformer la réforme ? C'est un autre sujet, mais l'argent mis là-dedans et pas de l'argent mis dans un puissant fonds pour une transition sociale d'un truc en perdition, pour lequel il y a évidemment des gens dont il faut accompagner la sortie du marché, puisqu'on est en plein dans le marché, comme ça vient d'être rappelé à l'instant. Et il est évident que face aux 12 milliards d'investissements qui sont mondiaux, mais qui sont l'échelle de grandeur de Netflix, on n'est pas très loin de ça pour Amazon, et on ne sait pas encore jusqu'où ira Disney. Toute baisse de prix, alors 1 euro c'est complètement con, mais la baisse des dotations des vos 190 millions là, le seul sujet c'est combien de l'argent qui va à la radio ou à la télé, public, va dans les programmes. C'est le seul sujet. Est-ce que c'est les fonctions support, un service de presse pléthorique, des informatiques mal harmonisées entre les uns et les autres, où il y a un peu de, non pas de gras, mais d'argent.
L'objectif des réformes du budget public, c'est quand même aussi de se tourner vers le numérique.
Non, mais c'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est, par exemple, les podcasts de France Culture, puisqu'on est sur France Culture, on peut faire un petit cocorico pour France Culture, sont extraordinairement écoutés, et la part de marché de France Culture dans les podcasts est beaucoup plus importante que l'audience de la chaîne France Culture dans le paysage. Bon, ben, c'est formidable, ça veut vraiment dire qu'il y a là une demande. Moi, je considère qu'en numérique, le replay et les podcasts tels qu'ils existent aujourd'hui font qu'on n'est pas complètement absent. Notre système public comme privé d'ailleurs est ouvert. Alors la révolution, c'est pas seulement numérique, c'est la mode qui est arrivée avec la musique et que la télé a depuis 3-4 ans, de la télévision par abonnement et délinéarisée. Ça c'est nouveau. C'était pas évident que Deezer et autres Spotify prennent le marché de la musique. Ils l'ont pris, finalement les gens trouvent que c'est très bien de payer X euros par mois et d'avoir une offre illimitée, alors que moi j'avoue que je télécharge encore, j'ose à peine le dire, les disques ou les interprétations que j'aime garder. Bon, donc ça c'est une révolution. Mais la holding, de ce point de vue, ça sert à rien du tout. La holding c'est pas fait pour faire le numérique, la holding c'est pas fait pour savoir à quoi ça va servir. La holding a, voilà, d'autres.
Le risque, c'est que ce soit effectivement un échelon administratif supplémentaire, simplement. C'est effectivement ce qui a pu être entendu. Et de toute façon, on va voir que plus largement, ces transformations s'inscrivent dans des bouleversements d'un paysage audiovisuel mondial. On va continuer à en parler dans un instant. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake, intent at tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine and new technology. And now I understand the problems you can see. Oh, oh, oh. I met your children. Why did you tell them video killed the radio star? Video killed the radio star. Beaches came and broke your heart. Oh, oh, oh. And now we meet in an abandoned studio. We hear the playback, it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. The last one, video killed the radio star. Video killed the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. Video Kill the Radio Stars, repris par les Pink Turtles sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Olivier Bomsel, Elisabeth Fleury-Hérard et Simone Harari sont toujours avec nous pour parler de l'avenir de l'audiovisuel public. Alors on l'a dit, la télé et la radio publique s'inscrivent aujourd'hui dans un paysage audiovisuel en pleine transformation. Et je vous propose maintenant d'écouter Reed Hastings, le patron de Netflix.
Ce que fait Netflix, c'est de combiner de très bons contenus avec une très bonne technologie.
You know, if we look at Apple, we see a company that figured out fashion and technology, and they sold the iPad and iPhone as a fashion accessory. And did it better than anyone in tech or anyone in fashion.
Apple a réussi à marier la mode et la technologie. Quand on arrive à marier ainsi deux tendances, c'est le jackpot. Nous, c'est la technologie et le contenu.
And they're both excellent. And yes, we're continuing to invest in the content side. In particular now, we're announcing today that we're doubling our investment in
French. Ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est que nous doublons nos investissements en France.
In France from 7 shows to 14 shows.
Voilà, selon Reed Hastings, Netflix et TF1, HBO et la BBC réunis sur une même plateforme. Que vous inspirent ces propos, Simone Harary-Beaulieu, alors même que Netflix compte aujourd'hui plus d'abonnés que Canal+.
D'abord, c'est très très bien que Netflix existe. C'est formidable et qu'on n'attende pas de moi d'être contre. Mais ça n'épuise pas le sujet. D'abord, le payant, c'est formidable. Mais le gratuit, c'est pas mal non plus. Enfin, de temps en temps, on peut peut-être aussi se poser cette question-là. On est en plein réflexion sur les difficultés des Français du pouvoir d'achat. Commencer par 120 euros par an, puisque la redevance est toujours parlée en annuel. Donc, parlons de ça en annuel. 120 euros par an pour voir des choses qu'on peut avoir gratuitement.
138 à l'heure actuelle.
pour voir des choses
c'est
qu'on peut voir gratuitement.
C'est un peu plus cher que l'abonnement à Netflix. Hein.
Oui, justement, mais quelle offre? Mais quelle offre pour toute la famille et pour tous, et c'est pas des niches. Alors la ça, deuxième chose, c'est l'algorithme. Je le dis et je le pense et je peux le démontrer, mais pour le moment je suis dans un autre raisonnement qui est celui de l'algorithme. L'algorithme, c'est un truc formidable et on peut adorer le fait que, comme ça m'est arrivé la semaine dernière, de parler d'une boutique et le lendemain d'avoir, grâce à Siri, la pub de cette boutique sur votre téléphone. Moi, ça me glace. Mais l'algorithme est quelque chose qui vous donne ce que vous aimez déjà, jamais quelque chose que vous n'aimez pas encore, puisque l'algorithme n'a pas pu l'intégrer. Donc, vous avez ce que vous avez déjà aimé ou ce que d'autres gens qui ont les mêmes goûts que vous ont aimé. C'est très bien, mais ça n'épuise pas le sujet de la curiosité que je pourrais éventuellement avoir à aimer des choses que je ne connais pas encore.
Ce que vous dites, c'est que ça ne sert à rien finalement d'essayer de mettre au point un algorithme qui serait un algorithme mis au point par une plateforme française ou européenne, qu'on n'arrivera finalement pas à rattraper Netflix, qu'il vaut mieux carrément se situer sur un autre sujet, sur un autre domaine.
Alors que Salto, qui a la vocation à être une plateforme, donc un service de SVOD, c'est-à-dire de vidéos à la demande par abonnement et ces algorithmes, c'est absolument normal et c'est souhaitable parce qu'il faut évidemment être concurrent dans la même aire de jeu. Que France Culture ait à se soucier pour concevoir ses émissions ou France 2 de ce que les gens ont déjà vu pour leur servir la même chose, c'est-à-dire les policiers marchent, ben vous allez avoir que du policier. Non, je pense que ça, c'est tout à fait dommage parce que la culture, ça a toujours été de l'offre et pas d'abord de la demande. Or, l'algorithme est une façon de remettre la demande au cœur.
Pour vous, Olivier Bomsel, Salto, non seulement n'a pas les moyens de concurrencer Netflix, mais ce n'est même pas souhaitable.
Je ne sais même pas ce que c'est que Salto. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Je ne sais pas ce que ça deviendra quand ça existera. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que le problème n'est pas tout à fait celui-là. Quand Reed Hastings a mentionné ses partenaires pour monter des, ce qu'il appelle des contenus, j'aime pas du tout le mot. En réalité, sont des œuvres, des récits audiovisuels. L'idée de récit est quand même beaucoup plus attractive que l'idée de contenu, d'une façon ou d'une autre. Moi, je consomme pas de contenu à part dans la bouteille d'eau que vous m'avez prodiguée. Donc, il cite la BBC. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à l'année dernière, pratiquement, la BBC produisait, qui est un service public d'un pays qui est à la taille de du nôtre, produisait avec Netflix et Amazon Prime à peu près 40, entre 40 et 50 séries par an. Les autres chaînes anglaises, ITV, un peu moins. À partir de cette année, elles vont davantage coproduire avec des chaînes des grands networks américains parce qu'elles trouvent que leur dépendance à Netflix et à ITV, à Amazon est devenue trop grande. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre pourquoi la BBC a des incitations à faire des coproductions avec Netflix et Amazon et pourquoi le service public en France n'a aucune incitation à le faire. Et c'est là le cœur du problème. Il n'est absolument pas dans l'organigramme, il n'est absolument pas dans la redevance. Il est dans la décision qui est au cœur de l'organisation du marché audiovisuel français quand Mitterrand a décidé de d'ouvrir à des acteurs privés le marché audiovisuel, c'est de contraindre les chaînes qui ne payent pas pour leur concession de fréquence hertzienne à reverser une part de leur chiffre d'affaires en commandant des programmes et des œuvres de cinéma aux producteurs et en ne payant par ces financements qu'un droit de location des programmes sur leurs antennes. Ce qui fait que, à la différence de la BBC qui aujourd'hui se développe selon un modèle de studio comme tous les grands acteurs de l'audiovisuel dans le monde et donc a dans ses actifs du catalogue de programmes et d'œuvres audiovisuelles et peut, quand elle passe des accords avec Netflix, bénéficier d'accords de coproduction qui valorisent convenablement son apport, dans le système français, les chaînes de télévision ne sont pas détentrices des droits des programmes audiovisuels qu'elles...
Mais ça, la réforme, précisément, vise à transformer, en tout cas, cette distribution
absolument
des droits d'auteur.
C'est un point que la réforme ne touche pas. Et c'est un point qui est d'autant plus sensible, Simone Harari va réagir dessus, que, en réalité, ce sont des droits de propriété qui ont été distribués d'une certaine façon au départ, et que ceux qui sont devenus propriétaires dans ce régime de partage ne souhaitent absolument pas voir remettre en cause ou se laisser exproprier. Et donc ce partage de propriété, si vous voulez, qui a permis dans d'autres pays où les chaînes de télévision étaient majoritairement propriétaires de créer des studios, laisse en France un paysage où toute la production est entre les mains de producteurs indépendants, certains ayant réussi à se concentrer, à acquérir des gros catalogues et potentiellement pouvant se revendre à des acteurs étrangers.
Alors le projet de loi diminue la part obligatoire de production indépendante imposée aux diffuseurs. C'est présent dans le projet de loi.
C'est très peu en regard de ce qui existe. Les Anglais, la BBC peut détenir 80% des programmes qu'elle finance.
Alors c'est peut-être moins, mais ça va dans le bon sens. Je voudrais entendre tout de même Elisabeth Pluré-Hérard et après vous Simone Hariri-Beaulieu.
Oui, c'est un vrai sujet, c'est peut-être le vrai sujet. Parce qu'on parle des ressources de télévision face aux énormes ressources des plateformes. Quelles sont les ressources de télévision? Quand on parle de ressources, il y a des ressources qui sont des flux, hein, la publicité, les ressources d'abonnement, puis il y a les actifs, la redevance, et puis il y a des actifs. Alors, et c'est là qu'on a un très gros problème. C'est quelqu'un de France Télévisions, justement, qui me disait, vous comprenez, se constituer un catalogue, c'est comme se construire un parc immobilier. Quand c'est Netflix, Netflix va construire son parc immobilier, il va être propriétaire pour tout le temps que ça va, que la maison va avoir de la valeur, il va être propriétaire de cette maison. Nous, à France Télévisions, on va payer la maison, exactement comme Netflix. Sauf que la différence, c'est qu'on va pouvoir la louer pendant 3 ans, cette maison, pour notre propre profit, et ensuite elle va revenir à l'architecte. D'accord. Donc après.
Et donc ça empêche ces rapprochements éventuellement entre Netflix et la télé privée.
Mais ça empêche d'avoir suffisamment de ressources. Quand vous avez un patrimoine immobilier, vous pouvez l'exploiter et ça vous donne des ressources.
Alors moi, je voudrais vraiment m'inscrire vraiment en faux pour plusieurs raisons.
D'abord, c'est une guerre.
Non, c'est pas de la guerre. Là, il y a d'abord des erreurs intellectuelles. D'abord, la BBC a une redevance à 167 euros, donc plus élevée en livres sterling, mais je...
L'un n'empêche pas l'autre.
Attendez, tout à fait.
J'ai pas prôné la suppression de la redevance.
Dans une seconde, si vous permettez, j'aurais pu bondir de ma chaise 3 fois. Je l'ai pas fait, donc j'essaie d'aller dans l'ordre. Premièrement, comparer la BBC, il y a plusieurs différences. 167 euros vis-à-vis de 137 euros, la BBC a plutôt plus de redevances que le groupe radio et télévision publique français. Première chose, autant le dire. Deuxièmement, la BBC a un petit avantage, allez, marginal, c'est que tous ses programmes sont en anglais. Et guess what? Ça s'exporte. Et jusqu'à peu de temps, il n'y avait absolument...
Est-ce qu'on peut laisser finir, Simone Harari, s'il vous plaît?
Donc, je continue. Jusqu'à il y a très peu de temps, ceux qui n'étaient pas en anglais ne s'exportaient pas du tout où que ce soit, ni dans les pays qui ne doublaient pas, comme les États-Unis, ni dans les pays qui sous-titraient, parce que moi j'ai souvent été déçu, par exemple en Hollande, qui ne double rien, que de ne rien vendre. Et les types m'expliquaient, nous on a l'habitude de voir des sous-titres, mais sur un son anglais. Et donc si vous avez des versions anglaises, on peut les prendre et les sous-titrer, mais sous-titrer du français, jamais. Bon, donc quand même deux avantages, genre un hinterland qui n'est pas négligeable. Pour rester un instant sur l'argent, avant de venir au principe. Netflix paye, parce que votre, je ne sais pas qui était votre type à France Télé, mais moi je le considère comme de mauvaise foi. Netflix paye à peu près 125% du budget d'un programme. Donc en effet, il a, possède l'immeuble ad vitam. France Télé donne 70% les bons jours du budget d'un programme. Je fais actuellement un De Gaulle historique assez ambitieux pour France Télé, que j'ai vendu comme étant un The Crown local. On a en budget, pas en dotation de France Télé, qui paye à peu près une grosse moitié, 1,5 million par épisode de 52 minutes. The Crown, c'est 12 millions par épisode. Donc juste, il donne 125% d'un truc 10 fois plus élevé comme budget, et nous, 75% d'un truc 10 fois moins. Donc c'est quand même des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Ensuite, aujourd'hui, il y a deux exemples en France d'accord avec Netflix. Faut arrêter le self-bashing.
Netflix et Canal+, Plus, grand accord annoncé en septembre.
Alors moi, je pensais plus à un Netflix TF1 et un Netflix France Télé. Je vais expliquer les deux. Qui se fait au coup par coup. Le bazar de la charité a une fenêtre sur Netflix. Donc TF1 a une diffusion plus le replay de ces épisodes. Ensuite, ça passe sur Netflix, qui a donc payé ses diffusions, qui est un cas d'accord dans lequel les deux y trouvent leur compte et de l'argent vient. Donc, faut arrêter de... Hein. Et France Télé a vendu, ayant le mandat, pas forcément tous les droits, mais a vendu 10% à Netflix. Qu'est-ce qui se passe? Netflix l'a baptisé Netflix Original. Et moi, j'ai des cousins dans divers pays, ils m'ont dit « Ah, il y a un truc formidable sur Netflix, tu devrais regarder. » Ça, c'est 10%, qui s'appelle, je ne sais plus comment, « Call My Agent ». Et donc, même quand c'est du entièrement financé
France
Télé...
C'est une question d'affichage.
Pas simplement d'affichage, de revendiquer. Avec, donc, considérer que toute la production financée, en l'occurrence par la redevance, doit être vendue pour 2 francs 3 sous à Netflix, moi je comprends que Delphine Ernotte ait dit stop, on arrête, ce qu'on paye, on se le garde, vive Salto et bientôt on le mettra là-dessus. Alors ensuite il y a l'histoire de détention, pas détention. On confond deux choses.
Des droits d'auteur.
Des droits de propriété sur le copyright, si vous voulez, en vérité, donc sur l'œuvre. Et je préfère moi aussi récit à contenu, ça c'est bien un point d'accord entre nous. Il y a un point de droit moral. Alors, j'annonce que dans le pays de Beaumarchais, le droit moral n'est pas le même qu'aux États-Unis. Et que le copyright, c'est l'auteur et le producteur à qui il a cédé ses droits, et pas forcément le diffuseur ni le producteur seul. Donc,
mais pour vous, ça, c'est une bonne chose, j'aimerais
en tout
comprendre.
Cas, c'est la France, et ça reste comme ça. Mais ceci n'empêche pas que, et en particulier dans de nombreux éléments, même quand il y a un producteur indépendant, la chaîne touche 30, 40, 50, franchement ça dépend des contrats et des montages, % des recettes qui sont remontées. Alors ensuite, le procès qui peut être fait, c'est pourquoi pas assez de recettes remontent. Jusqu'ici, les services commerciaux des boîtes privées, qu'on va considérer comme plus agiles que celles des très grosses boîtes, n'est pas plus mauvais pour vendre à l'étranger. Et ensuite, le partage doit se faire, et si les chaînes, si les contrats sont pas respectés, faut gueuler. Alors, mais c'est pas vrai que dans un cas, l'immeuble qui a énormément de valeur appartient au diffuseur, et dans l'autre, l'immeuble qui ne vaut rien appartient au producteur.
Alors c'est un point de désaccord, on l'entend, mais alors est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi de concentration, puisqu'on voit qu'il y a une concentration croissante du secteur aux États-Unis, dans un certain nombre de pays d'Europe, enjeu de concentration, par exemple le groupe français Banijay qui vient de racheter le premier producteur audiovisuel mondial Endemol Shine. Est-ce que ça c'est aujourd'hui un enjeu, Olivier Bomsel, et quel problème éventuellement est-ce que cela pose?
Des sociétés de production, il y en aura toujours. Il n'y a pas de barrière à l'entrée très très importante pour produire, donc on peut commencer à produire, surtout dans le documentaire qui vaut 10 fois moins que la fiction, qui elle-même vaut parfois 10 fois moins que le cinéma. Donc il y a toujours possibilité pour des producteurs de rentrer. Ce qui est très frappant, c'est de voir que Banijay, qui a commencé comme sous-traitant de la télévision française, en étant propriétaire de ces programmes, a pu constituer justement des réserves de fonds propres, de la capacité d'investissement.
C'est pas du tout en étant producteur, parce qu'ils ont fait au départ que du divertissement qui ne se revend pas. Ils ont travaillé avec des marges hallucinantes.
Ils ont été propriétaires des formats que la télévision ne possédait pas.
Et chaque fois que je les vends à l'étranger, j'en donne 25% à France Télé.
En tous les cas, le problème de mon point de vue, il n'y a pas de problème de concentration. Il y a un problème très important qui est un problème d'incitation et de structuration industrielle de l'écosystème. Si un diffuseur paye 70% d'un programme, lequel peut avoir été surévalué par celui qui va le fabriquer. Donc en réalité, il peut payer 100% d'un programme qu'on a surévalué à 130%. Si un diffuseur paye ce montant-là pour un programme dont il n'a pas les droits de propriété, il n'a absolument aucune incitation à ce que le programme puisse servir en dehors de ses antennes. Donc on a construit un système audiovisuel dans lequel les chaînes ont commandé des programmes uniquement pour leurs audiences captives sur le territoire national, ce qui n'est pas du tout le cas de Netflix.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. On a beaucoup parlé de Netflix, mais il faut peut-être dire un mot tout de même de ses concurrents, Apple, Disney ou encore Amazon, avec l'idée que la force de Netflix, c'est comme on l'a dit, que le budget que la plateforme consacre aux contenus originaux, et avec aussi cette question, Elisabeth Fleury-Hérard, ce projet de taxer davantage les géants du numérique pour précisément permettre davantage de création française.
Oui, alors il y a les projets plus généraux de taxes Google, etc. Là, on parle plutôt du fait que en France, on a des organismes qui payent des taxes et les grandes plateformes qui sont installées ailleurs qu'en France, effectivement, échappent à l'application de ces taxes. Avec la directive services de médias audiovisuels, on pourra leur demander de payer des taxes, on pourra leur demander des obligations de production qui pèsent sur les télés. Il faut voir jusqu'où on pourra aller, et puis il faut bien voir qu'un tel système qui consiste à dire on a imposé des obligations très lourdes et assez handicapantes aux télévisions nationales, et on va imposer les mêmes obligations à Netflix, comme ça on va rétablir le plateau de la balance. C'est une solution à condition que ça marche, et ça pose quand même beaucoup de problèmes. Il y avait une autre solution qui était de dire il faut peut-être aussi libéraliser le système en France pour qu'on ôte un certain nombre de handicaps. Parce que malgré tout, il y a une chose très importante, vous avez parlé de concentration, encore une fois, c'est devenu un marché mondial. Un marché mondial, vous avez des géants mondiaux.
Donc cette concentration est nécessaire pour vous?
C'est pas qu'elle soit nécessaire, elle est dans l'ordre des choses. Qu'on le veuille ou non, maintenant, les plateformes, c'est devenu quelque chose de mondial.
Alors on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être, Simone Harary-Beaulieu, sur l'avenir de cet audiovisuel français, public notamment. On est dans une grève d'une semaine à Radio France où il y a eu un certain nombre de contestations autour du sentiment d'injustice que peuvent ressentir certains salariés autour de la baisse des dotations. Comment, selon vous, Simone Harary-Beaulieu, on continue à garantir la qualité des contenus du service public avec des dotations en baisse?
Alors, franchement, pour moi, le critère, il y a deux critères pour apprécier un programme. C'est est-ce qu'il a un public? En l'occurrence, la radio publique caracole en tête des écoutes. Et est-ce que des gens indépendants considèrent que par rapport à la concurrence, la qualité est au rendez-vous? Parce qu'après tout, on peut avoir, on le sait, des audiences importantes avec des choses plus faciles. Et là aussi, quand même, des fleurs pour Radio France. Donc, après, c'est plus qu'une question d'efficacité. Moi, je crois pas à la, personnellement, au serrage de Kiki par la contrainte, parce que le système aussi est contraint, que des prédécesseurs ont signé des accords sociaux qui sont ce qu'ils sont, et comme tous les accords, ils doivent être respectés. Et moi, je trouve que c'est une infantilisation du système que de procéder de cette façon. J'ajoute que l'audience, c'est pas comme les kilos, c'est difficile à gagner et facile à perdre.
Et bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois, Olivier Bomsel, Elisabeth Pluré-Hérard et Simone Harari-Beaulieu. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, Simone Harari-Beaulieu, La chaîne et le réseau, paru l'an dernier aux éditions de l'Observatoire, et le vôtre, Olivier Bomsel, La nouvelle économie politique, une idéologie du 21e siècle, paru chez Gallimard. Un grand merci. Et c'est l'heure pour nous d'accueillir notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Catherine André.
Bonjour Tiffaine.
Et alors aujourd'hui, vous avez voulu parler d'ESS, d'économie sociale et solidaire.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai choisi de me faire l'écho du mois de l'ESS, qui se termine bientôt et qui met, comme chaque année, un coup de projecteur sur le travail et l'incroyable vitalité des structures de l'économie sociale et solidaire. Un peu partout en France, de multiples initiatives concrètes continuent de voir le jour, de se développer, de créer, avec pour boussole la construction d'une société du bien-vivre au bénéfice de tous.
Et alors, dans quel secteur est-ce qu'elles agissent, Catherine ?
Alors, on les trouve dans les domaines très variés, aussi variés que la transition énergétique, la production d'énergie renouvelable, l'énergie citoyenne, la lutte contre la précarité énergétique et le gaspillage alimentaire et les ressources en général, dans la transformation de notre modèle agricole et la recherche d'une alimentation à la fois saine, bonne et accessible à tout le monde, dans la distribution bio, le développement rural, mais aussi dans les nouvelles mobilités, la mobilité écologique et solidaire, ainsi que les services à la personne, le tourisme chez l'habitant, l'action sanitaire et sociale et même l'art et les spectacles. Surtout, elles partent des capacités humaines dans les territoires qu'elles contribuent à revitaliser. Vous le voyez, la liste des activités est longue et riche.
Et en quoi l'ESS est-elle vraiment différente du monde économique classique ?
Alors, l'idée force, c'est en agissant sur plusieurs fronts en même temps, de développer dès maintenant une économie tout à la fois soutenable et socialement juste. C'est donc un apport par nature transversal, inclusif, qui se veut vecteur de progrès social. Elle repense notamment la place du travail dans la société, elle invente de nouvelles protections. Les jeunes sont très présents, alors qu'ils ont tout particulièrement à cœur de s'investir dans des projets porteurs de sens. Autre différence de taille, l'ESS crée de nouvelles façons d'entreprendre et interroge le principe même de création de valeur. Elle promeut un autre modèle d'entreprise que celui visant à la seule création de valeur pour l'actionnaire. En cela, elle joue souvent un rôle pionnier. Enfin, la gouvernance que s'attachent à mettre en place les organisations de l'ESS repose sur la coopération, la collaboration et leur gouvernance est démocratique. Ainsi, elle renouvelle de fait les pratiques démocratiques dans notre pays.
Et est-ce qu'elle crée des emplois ?
Oui, l'ESS, c'est un emploi sur 10 en France, et notamment près de 18% de l'emploi privé rural. Elle crée des emplois réellement utiles. On compte par ailleurs de nombreuses entreprises d'insertion par l'activité économique qui allient action dans les domaines que j'ai énumérés et création d'emplois pour des personnes qui en étaient très éloignées, parfois depuis longtemps. La réinsertion sociale est donc au cœur de leur mission. Le cahier spécial d'Alter Eco du numéro de novembre qui porte sur le mois de l'ESS présente 30 initiatives dans toute la France. Et aujourd'hui et demain, 29 et 30 novembre, se tient la 4e édition des Journées de l'économie autrement, les JEA, sur le thème de l'économie autrement, qui rassemble des acteurs de l'ESS venus de partout. Et d'ailleurs, je saute dans un train pour m'y rendre juste après l'émission. Cet événement est porté par Alternatives économiques, est gratuit et ouvert à tous.
Et ben, on vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup Catherine, à bientôt.
In a mirror, yeah. So much to be afraid of. Scared of what we're made of and what we might be. Young life flies out the window, yeah. It's not the time that changed us. It's the dreams that we were chasing come back to haunt us. Eventually, that's why every morning at the dawning, tell you, darling, something is calling. Drive me crazy, I just can't explain it. Go out of your mind, out of your mind.
Time Machine d'Alicia Keys. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, marche ou grève, on parlera mouvement social et mode d'action à la veille de la grande mobilisation du 5 décembre. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et aussi nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end à tous et à lundi.